Alors, tournez dans Romains 8, un autre texte bien connu et qui va ramener, si je peux dire, les ficelles tranquillement aussi de ce qu'on est en train de voir. Dieu prédestine, Dieu appelle, et dans Romains 8, versets 29 et 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me le lire? Danny? OK, ça sera le prochain. OK. Il a connu l'avance, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Ça, c'est l'œuvre de Dieu pour nous les hommes qui avons part au salut que Dieu nous a donné. Il nous justifie et il nous glorifie aussi. Et c'est drôle de voir que le temps de, ici qui est donné à la glorification, on a déjà un statut de glorifier. Est-ce que mon corps est glorifié présentement? Non, évidemment. Évidemment. De toute évidence. Mais le tien non plus. Hein? Mais nos corps seront glorifiés. Mais quand même, aux yeux de Dieu, le salut qu'il nous a donné, c'est tellement parfait que Dieu nous voit déjà dans cette position-là de glorification. Alors, ceux qui l'a prédestiné, c'est ceux qui seront glorifiés aussi, et ceux qui sont glorifiés. Et alors Dieu n'a pas perdu en cours de route. Et ils sont glorifiés, et ça fait partie de cette œuvre de Dieu et de justification aussi, de la justice qu'on parlait un peu la semaine passée, que Dieu nous a imputée, que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse aussi être glorifiés. Parce que sans la justification par Jésus, ben on ne peut pas être glorifié aussi. Et là, j'aurais pu amener, j'avais différents passages en ce qui concerne la glorification. Jésus a été glorifié, mais on comprend aussi que notre maître ayant été glorifié, les disciples le seront aussi, puisque la Bible dit, mais les disciples un jour vont ressusciter, ils vont participer à cette glorification-là aussi. Et de la même façon que Jésus a été glorifié, même type de glorification, nous aussi on sera glorifiés avec un corps immortel, incorruptible, doué de possibilités nouvelles qu'on n'a pas présentement. Le corps ressuscité des croyants sera semblable au corps glorieux de Christ. Et je pourrais vous donner les versets si ça vous intéresse, mais particulièrement 1 Corinthiens 15 en parle beaucoup de ça, de l'incorruptibilité qui sera revêtue après la résurrection. Et c'est ça que Dieu nous promet à travers le salut. C'est ça la portion d'espérance aussi qui nous est donnée, sachant très bien que, oui, on vit encore dans la chair, oui, encore des difficultés, oui, encore le péché qui nous colle à la peau, mais quand même, on le sait, que l'on a un état de déjà donné, de déjà placé, si je peux dire, de côté, qu'un jour, on va avoir, qui est la glorification, que l'on va participer, qui nous sera remis à la résurrection aussi. Alors, Dieu a prédestiné, Dieu appelle, Dieu justifie, Dieu glorifie, et une fois qu'une personne est justifiée, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, c'est pas évident de toujours dire qu'est-ce qui se passe un ensuite de l'autre, mais une fois que la personne donne sa vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe immédiatement? Elle reçoit l'Esprit de Dieu. Ça fait partie de l'œuvre du salut que Dieu donne, qui s'accomplit, l'œuvre, le Saint-Esprit qui vient habiter dans cette personne-là. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait immédiatement? Elle nous scelle, elle nous sanctifie, et un autre mot, elle nous régénère aussi. L'Esprit nous régénère, on est régénéré. C'est de communiquer une nouvelle nature aux pécheurs qui se confient en Christ. Et alors, il est régénéré, nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. C'est cette nouvelle création-là qui naît maintenant, cette nouvelle nature-là qui apparaît par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous et qui nous régénère. Regardez le verset, en fait, Tite 3, 5. Quelqu'un voudrait me lire ça? On pourrait commencer au verset 4. Ah, mais Daniel, tu voulais-tu le faire? 4 à... Ah oui, 4 à 7, c'est bon ça.
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde,
OK? Alors, juste dans ce verset-là, dans cette portion-là, il y a beaucoup de choses qui nous est données. Mais, entre autres, ce qui est révélé, ce qui est placé encore en emphase, c'est l'œuvre de Dieu indispensable pour que l'homme soit sauvé. Est-ce qu'on est sauvé parce qu'on a réussi à faire des œuvres de justice? Parce qu'on était bon? Ben non, évidemment. Mais parce que mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, alors selon la miséricorde de Dieu, selon la personne de Dieu, selon son œuvre qu'il nous donne, c'est pour ça qu'on est sauvé. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Ben, c'est cette régénération-là, ce renouvellement-là du Saint-Esprit qui nous est donné et qui maintenant qui va faire la guerre à la chair et qui, tranquillement, pas vite, va pouvoir commencer à travailler dans nos vies en ce qui concerne la sanctification. La sanctification, on va le voir tantôt, en ce qui concerne la responsabilité humaine, mais c'est une œuvre de Dieu dans nos vies aussi, la sanctification, où ce que le Saint-Esprit nous rappelle les choses que l'on doit changer, il nous aide à faire la guerre à notre nature pécheresse, si je peux dire, pour que justement notre nouvelle créature vive et qu'elle soit forte et qu'elle prenne le dessus. Alors, il nous régénère. Et un dernier aspect que je veux voir, une fois que Dieu nous a prédestinés, qu'il nous a appelés, nous a justifiés, régénérés, glorifiés, ce qu'il nous laisse aller à nous-mêmes, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait grandir, il nous accompagne dans la sanctification. Comment? Il nous garde. Et c'était le point que je voulais faire ressortir. Dieu préserve ses enfants, comme un père qui veille sur ses enfants. Toujours mes enfants seront mes enfants. Toujours un enfant de Dieu sera un enfant de Dieu. Parce que Dieu, il nous garde, il nous préserve. Et on était tantôt dans Romains 8. Retournez dans Romains 8, versets 38 à 39. Encore un autre texte qu'on connaît bien, mais qui est bon de se rappeler. Quelqu'un qui veut me lire ça? Romains 8, 38 et 39? OK, Jacin. OK. Alors, est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Christ? Oui. En tout cas, Paul lui commence en disant, j'ai l'assurance. J'ai cette assurance-là que mon Dieu est plus fort que le tien. Mon Père est plus fort que le tien. Il n'y a rien qui va me détacher de l'amour. Si je te dis comme il faut, oui, c'est ça. Mon Père céleste, est plus fort que ton Père, qui est le Père du mensonge. Et je sais que je vais toujours, que Dieu va me préserver, que dans le salut qu'il m'a donné, jamais il va me laisser aller. Non, je ne poserai pas cette question-là. Mais Dieu va me garder. Et Dieu va prendre soin de moi. Et je pense que même si des fois je suis rebelle, même si des fois j'ai envie de dire à mon père que je suis tanné d'obéir, puis que tu es comme un enfant qui pourrait dire ça, mais Dieu, comme un bon père qui aime ses enfants, il va me garder. Puis il va peut-être me châtier un peu puis dire, David, tu marches pas droit. Et puis il va me ramener, puis je vais revenir. Parce que je connais mon père et puis il connaît ses brebis aussi. OK, on vient de voir en ce qui concerne la souveraineté de Dieu. L'œuvre de Dieu en ce qui concerne le salut, elle est complète. Il n'a manqué en rien. Il l'a vu en ce qui concerne l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Alors, Dieu prend soin de nous. Et Dieu désire vraiment ardemment que l'on soit sauvé. Il a tout donné ce qu'il y avait de plus cher pour qu'on soit sauvé. Quelle est notre responsabilité face à ça maintenant, nous, de notre côté? Bien, première des choses, quand on est confronté à notre nature pécheresse, quand on est confronté à ce que Jésus veut, est mort pour nos péchés, qu'est-ce que l'on doit faire? Si je réalise que je suis un pécheur, qu'est-ce que je dois faire? La repentance. C'est quoi la repentance? 180? Se détourner? Oui. 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 Alors, c'est un regret profond et qui amène un changement de marche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est de réaliser qui amène ce regret-là et qui amène un changement de marche. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important, qui est indispensable même au salut, que si on ne se repent pas, on ne peut pas être sauvé. Si je ne change pas de côté, si je marche dans une direction qui était la direction du péché, je ne change pas, je ne me détourne pas de ma voie pour suivre Christ, mais je ne suis pas sauvé. Dieu s'attend de nous la repentance. Et un autre texte bien connu, quelqu'un qui voudrait me lire, Actes 17, 30, peut-être même quelqu'un le connaît par cœur. Non? C'est pas grave, moi non plus, je ne le connais pas par cœur, mais il est... OK. Qu'ils ont à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce quand? Maintenant. C'était un discours qui était donné, évidemment, au temps des Actes, dans un discours historique, mais j'ai pas de problème à dire encore maintenant, Dieu annonce ça. Qu'est-ce qu'il annonce? À qui il annonce, premièrement? À tous les hommes. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas obligé de se repentir pour être sauvé? Non. Alors, en tout lieu, qu'ils ont à faire quoi? À se repentir. Alors, encore dans ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, la repentance, elle est indispensable. La repentance implique un changement de pensée, un changement d'attitude, un changement de marche, se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Ça demeure une lutte quand même de continuer de marcher dans la direction dans laquelle on s'est détourné et de continuer de s'engager pour Dieu. Mais c'est ça, c'est en quoi on s'engage du moins que de dire, je m'engage une conscience pure devant Dieu, à maintenant à m'être détourné de mes péchés, à m'être repenti et d'avoir ces changements de pensée, d'attitude, de marche, de détourner du péché pour me tourner vers Dieu aussi. Et j'aimerais que vous tourniez dans 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. On a un petit peu de temps, on va aller le lire. 1 Thessaloniciens 1. Quelqu'un qui voudrait le lire?
Nous avons raconté à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère.
OK. Quand ils ont connu Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Thessaloniciens? Ils se sont convertis, ils ont abandonné leur péché pour maintenant pas servir les idoles, mais servir qui? Le Dieu vivant. Et peut-être je peux ouvrir une parenthèse rapidement. Les choses que Dieu nous demande de ne plus faire, il nous demande de faire quelque chose aussi en échange. Il nous demande de se détourner des idoles pour arrêter de les servir, mais dans le but de le servir lui aussi. Alors, dans ce que Dieu nous demande, arrête telle chose, arrête ce péché-là. Mais maintenant aussi, il nous donne l'occasion de faire le bien. Et c'est ça qui est important aussi. Ce n'est pas juste que de dire j'arrête et je me tourne les pouces, mais j'arrête pour faire autre chose maintenant qui est le bien et qui va m'aider à lutter dans ma marche aussi contre le péché, qui est de faire le bien. Alors que celui qui fait le mal fasse le bien pour abandonner le mal, justement. Tous les hommes repentants ont maintenant la responsabilité, ensuite qu'ils se sont repentis, qu'ils sont sauvés par Dieu et ils ont reçu l'Esprit. Qu'est-ce qu'ils font après, au travers de leur marche? On en a parlé tantôt. L'obéissance et la sanctification. Ce qui nous amène. Qui peut me donner une définition de ce qu'est la sanctification? Oui. Marcher de plus en plus à la parole de Dieu. Et de plus en plus est important dans la définition de sanctification. C'est ce qui nous emmène aussi à oui, Céline. Oui. Alors, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, certainement qu'il y a une une collaboration entre moi et Dieu aussi en ce qui concerne ma sanctification, où ce que Dieu me donne la capacité de pouvoir avoir la victoire sur le péché, et il y a une responsabilité de ma part aussi en tant qu'enfant de Dieu que d'abandonner le péché aussi. Et c'est là que je parlais tantôt que notre responsabilité humaine en ce qui concerne le salut n'est pas juste au moment ponctuel du salut où ce que j'ai été sauvé, j'ai été justifié, j'ai été glorifié, j'ai été régénéré, mais il y a aussi une responsabilité qui continue, qui est la sanctification. Et tournez dans 1 Pierre 1, 15 et 16. Est-ce que quelqu'un voudrait me lire 1 Pierre 1, 15 et 16? Tu vas nous donner clairement qu'est-ce que c'est aussi la définition de la sanctification. OK. Excusez-moi. Lisette. OK. Sanctification est attachée à quel mot? Saint. La sainteté. De devenir saint pour quelle raison? Parce qu'on a été appelé. Et celui qui nous a appelés, de comment est-ce qu'il est? Il est saint. Alors Dieu s'attend de nous en nous appelant, lui qui est saint, et nous appelle à la sainteté aussi, à lui ressembler. C'est pourquoi vous serez saint, car je suis saint. Et alors c'est un travail continuel que de continuer d'avancer dans cette sainteté-là. Alors, est-ce que on est déjà saint présentement? Oui? Est-ce qu'on est glorifié présentement? Oui, on est glorifié. Est-ce qu'on est saint présentement? Oui, on est saint présentement. Mais on ajoute encore la notion de on marche vers là. On est saint. On a reçu cet état-là qui est saint, bien qu'on ne soit, on n'est pas saint comme Dieu lui-même est saint. Sauf que c'est l'état qu'il nous a donné, sans quoi on ne peut pas avoir de relation avec Dieu si on n'est pas sanctifié complètement, mais qu'on a encore une lutte quand même à livrer en ce qui concerne le péché. Et on aurait pu lire, je vais juste vous lancer les versets, mais Éphésiens 1:1, Philippiens 1:1, qui comme Paul commence en disant « saint, saint », et il les appelle « saint, vous êtes des saints présentement ». Alors oui, est-ce qu'on peut dire qu'on est saint présentement? Oui. Oui, on est saint. Et c'est ça comme ça qu'on doit marcher aussi. On doit marcher si on est saint, que Dieu nous a donné ce statut de sainteté, si je peux dire, ou de nous a justifié, bien que à raison de plus qu'on va dire, bien, je vais marcher comme tel aussi. Oui, Jacinthe. Sanctifié, oui, oui. On va se mettre à part en ce qui concerne, mettons, du péché. Et on va marcher. Oui, Mme Richard, pas ça, René. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on est saint. Sinon, on ne serait pas saint. Alors, si Dieu ne nous voyait pas à travers son Fils, on n'aurait pas ce statut-là aussi. Oui, René. Oui. Oui. Oui, oui. C'est ça. Oui. Oui. C'est bon. Merci, René. C'est ça. Alors, oui, tu veux rajouter un autre commentaire? On est séparés du péché, puis engagés dans la sainteté, à marcher pour se sanctifier. Alors, les hommes repentants ont maintenant la responsabilité de la sanctification. C'est une responsabilité que l'on a de continuer d'abandonner le péché et de continuer de ressembler, de rechercher à ressembler à notre maître le plus possible. Alors, on est déjà saint aux yeux de Dieu. Dieu appelle les enfants de Dieu aussi à exprimer la sanctification progressive en se libérant des comportements charnels de leur ancienne vie aussi. On trouve plusieurs encouragements dans les Écritures, on a le temps de rapidement, il me reste deux textes à lire. 1 Thessaloniciens, puisqu'on est proche,